Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour à tous.
Actualité oblige, le mois de mars est le mois dédié aux droits des femmes. Alors, Asialogie se centrera aujourd'hui sur la condition des femmes en Asie, aujourd'hui, enfin, la condition d'aujourd'hui des femmes en Asie. Et Didier, pour s'échapper un peu, tu feras vibrer les murs de Radio Alpa avec les tambours taïko.
Et ça, ça me plaît bien, ça.
C'est vrai?
Ah oui, j'aime beaucoup.
T'as amené ton tambour? Non.
Non, j'ai pas ce talent-là, mais par contre, l'écouter, l'apprécier, oui, ça c'est pas mal.
Bon, on fera ça tout à l'heure.
Voilà.
Alors, je vais donc vous parler des femmes d'aujourd'hui en Asie et de leurs difficultés à vivre pour elles-mêmes. Alors, important de commencer par la natalité. La Corée, le Japon et la Chine sont devenus les pays champions de l'infécondité mondiale. 4 femmes sur 10 n'y ont pas d'enfants à 35 ans. C'est quand même une bonne proportion importante.
Oui.
Et pour la 7e année consécutive, la Corée du Sud enregistre le taux de natalité le plus bas du monde avec 0,79 enfants en moyenne par femme en 2022. Depuis 7 ans, ils remportent la palme.
D'accord.
Depuis 7 ans.
C'est ouais, eux tout ça qui va ont leur poser d'énormes problèmes, à force.
Qui font le moins d'enfants. Et c'est presque pareil au Japon, un petit peu mieux quand même, c'est 1,3 enfants par femme. Alors pour rappel, pour assurer la stabilité de la population, un pays doit afficher un taux de natalité d'au moins 2,1. Et c'est au moins 2,1.
D'accord.
Donc c'est important quand même de poser ces bases-là et vous allez comprendre pourquoi. Alors, pourquoi cette infécondité? On appelle ça comme ça, infécondité. Mmh. Eh bien, c'est lié à la très forte augmentation des femmes qui suivent des études supérieures et qui se marient plus tard ou qui font le choix de ne pas se marier.
D'accord.
Alors, souvenez-vous, et ça c'est important, que les normes sociales patriarcales continuent de faire pression sur les femmes en Asie, en particulier sur les mères qui assurent les travaux ménagers, l'éducation des enfants et les soins aux parents et beaux-parents âgés. Donc les femmes sont très souvent confrontées à des choix difficiles entre leur vie de famille et leur carrière, et à la décharge des hommes, parce que quand même il faut voir les choses dans leur globalité.
Oui.
Les journées de travail sont souvent très très longues, ils rentrent très tard ou parfois ils ne rentrent pas
du tout,
surtout au Japon.
C'est ça, oui, c'est
bien. Donc les femmes se débrouillent toutes seules avec tout ça. Alors aujourd'hui, une proportion croissante de jeunes, garçons et filles, hommes-femmes, pensent que le mariage n'est pas forcément du bonheur et de nombreuses femmes vont rester célibataires sans enfants, car en Asie, on n'en fait pas hors mariage des enfants.
D'accord.
Il faut être marié.
Ceci explique cela. Et alors, est-ce qu'il y a des mouvements féministes en Asie alors ?
Alors oui Didier, mais beaucoup moins nombreux qu'en Occident. Et ils ont du mal à se faire entendre et sont plutôt mal vus.
Je suis surpris.
Alors ça marche quand même mieux en Chine qu'ailleurs. Il faut D'accord. savoir aussi que le féminisme est un gros mot en Corée. Alors, dans les séries, ça se voit pas tout ça, pas trop en tout cas.
Oui.
Mais c'est vu comme une misandrie dangereuse, donc le contraire de la misogynie.
D'accord.
Hein. Et les groupes masculinistes y sont très actifs et très populaires sur les réseaux sociaux. Et ces groupes masculinistes considèrent même que le féminisme, c'est une maladie mentale. Sympathique quand même.
Très
hein.
bien, oui. Là,
on est sent... loin du beau gosse coréen sympa oui. des séries.
C'est clair.
Mais ceci dit, il faut savoir que c'est un objectif vers lequel tendre.
Ils peuvent faire que des progrès en même temps.
Voilà. Mais malgré cela, le désir d'émancipation et de liberté gagne du terrain chez les jeunes coréennes et les japonaises. Mais elles sont quand même encore moins engagées dans les mouvements féministes au Japon.
D'accord. Voilà. Du coup, quelles sont les difficultés particulières pour les femmes en Corée et au Japon ? J'imagine qu'en Chine, ça doit être un petit peu différent vu leur histoire communiste, non ?
Oui, c'est différent, Didier, tu as raison. En Corée et au Japon, très imprégnés des idées confucianistes depuis des siècles, la majorité pense que l'homme est plus haut que la femme et doit être respecté. J'y mets des guillemets,
oui,
hein,
non,
l'homme plus haut que la femme.
C'est, oui, c'est pas la Corinne que je connais qui parle, là, sinon.
Voilà, je ne cite pas Confucius, je cite des idées dérivées du confucianisme.
D'accord.
Alors, malgré ce qui est écrit en faveur de l'égalité dans les constitutions, c'est-à-dire que les constitutions sont plus en avance que ce que les femmes vivent en Corée et au Japon. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, au Japon, il y a du sexisme systématique dans les universités de médecine. Alors, peut-être pas toutes, mais en tout cas, il y a des universités qui baissent les notes des examens d'entrée des candidates pour favoriser les hommes, vu que les femmes vont forcément quitter la profession pour fonder une famille. C'est évident pour eux.
Alors bon, pardon de sourire, mais vraiment là,
on
touche le fond là.
Et donc en Corée, c'est à peine mieux. C'est un peu mieux, mais à peine mieux. Même si les conditions des femmes ont nettement évolué depuis les années 80, les entreprises partent du principe que les femmes vont arrêter de travailler lorsqu'elles auront un enfant. Donc, pas d'intérêt de leur donner des promotions et des responsabilités, et les femmes se retrouvent à faire un choix, un enfant ou une carrière.
Bah, c'est vrai, quoi.
C'est dur, quand même, d'être une femme, des fois, je trouve.
Tout le monde aura repéré mon ironie, j'espère.
Oui, je pense. Et donc, c'est pourquoi la Corée du Sud et le Japon se hissent péniblement à la 90e place pour la Corée et 116e place, pour le Japon, dans l'égalité entre les femmes et les hommes sur un total de 146 pays.
C'est pas très glorieux. Hein.
C'est pas glorieux. Hein. Par exemple, il y a une grande différence de rémunération. En 2021, les femmes coréennes et japonaises gagnaient en moyenne 31,1% de moins que les hommes.
C'est pire que chez nous.
C'est pire que chez nous. C'est le plus grand écart dans les pays de l'OCDE,
hein,
l'Organisation de coopération et de développement économique.
Mmh.
Et les femmes n'occupent que très peu de postes de cadre, surtout au Japon. Alors, je pense qu'on mérite une petite pause musicale et une chanson qui est un petit peu passée inaperçue dans un film qui est aussi un peu passé inaperçu. Je ne parle pas du dessin animé, je parle du film avec des acteurs. C'est Mulan.
D'accord.
Un film qui parle de la condition des femmes dans la Chine du 5e siècle. Mulan, la guerrière, qui est une icône chinoise aujourd'hui. Et en fait, Mulan, elle va remplacer le fils que ses parents n'ont pas eu et elle va partir à la guerre. On écoute Mulan.
On écoute ça tout de suite.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Asialogie, 105.3 Le Mans. On retrouve les conditions féminines en Chine maintenant, puisqu'on a parlé un peu de la Corée et du Japon. Donc, tu vas pouvoir nous parler des différences qu'il y a avec la Chine. Alors, ce qu'on a écouté, j'ai oublié de le dire, c'est quand même Lou Yifeng qui nous chantait la chanson de Mulan. Donc, je te laisse à nouveau nous évoquer la
Mulan,
Chine.
Merci pour Mulan, Didier. Voilà, j'ai un peu insisté là-dessus. Je reconnais, mais Mulan, on en parlera parce que de l'histoire de Mulan qui est très intéressante sur le plan symbolique. Il y a tout plein de choses intéressantes. Mais une autre fois.
Ah non, voilà, il reste quelques émissions, donc on devrait pouvoir faire ça.
C'est ça. Alors, y a-t-il des différences en Chine ? Oui, quand même.
Ouais.
Pendant des siècles, la place de la femme en Chine a été soumise à des traditions et à des normes sociales strictes qui ont limité leur liberté et leur autonomie. On parlera des pieds bandés, mais ça avait ça quand même pour objectif, c'était de limiter la liberté et l'autonomie des femmes. Cependant, au fil du temps, la condition de la femme a évolué dans le bon sens. La Chine était très patriarcale, comme le Japon et la Corée. Et mis à part être une bonne épouse et enfantée, on ne demandait pas grand-chose aux femmes. Mais les temps ont changé. Et aujourd'hui, la femme chinoise a une place bien plus importante dans la société. La révolution, avec ses principes égalitaires, est passée par là, avec des droits équivalents à ceux des hommes.
D'accord, mais alors du coup, à quel moment son émancipation a-t-elle réellement commencé alors ?
Oui, le mot réellement est important. Oui. C'est l'instauration de la politique de l'enfant unique. Alors ça peut sembler horrible, la politique de l'enfant unique. Donc ça, c'était en 79. Mais en fait, ça a facilité beaucoup les choses pour les femmes.
Forcément.
Ça leur a permis de poursuivre des études et donc d'avoir une carrière professionnelle. Et pas seulement d'être à la maison, s'occuper des enfants, de la maison et des parents âgés. Elles ont pu ainsi sortir de leur rôle traditionnel de mère et devenir plus indépendantes et occuper une place importante dans la société chinoise. Alors les femmes représentent près de la moitié de la population active chinoise et occupent des postes de plus en plus élevés dans les entreprises et aussi dans la politique.
Ah, aussi en politique, d'accord.
Oui, mais ces progrès s'il y a des progrès significatifs, il y a toujours quand même de la discrimination à l'égard des femmes dans l'emploi et la société en général. Et les femmes sont souvent considérées à tort comme moins qualifiées que les hommes et sont souvent victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. En Corée et au Japon aussi.
D'accord.
Mais je dirais ça, ce que je viens de dire là, c'est un peu comme chez nous.
C'est ce que j'allais dire.
Entre un homme et une femme à compétences égales, qui va être choisi ?
Tu me devances, parce qu'en fait, voilà, en t'entendant dire ça, je me dis, finalement, à peu de choses près, avec des chiffres un peu différents, mais bon, on retrouve des situations.
Sauf qu'en Chine, les lois protègent la femme. C'est
d'accord.
Des lois qui sont égalitaires.
D'accord.
Alors, en Chine, la femme a aussi une pression énorme pour se marier et avoir des enfants, parce que depuis 2018, les couples peuvent avoir plusieurs enfants. Alors, ça peut sembler sympa, mais du coup, si t'as plusieurs enfants, t'as plus de travail à la maison.
Il faut s'en occuper. Et c'est plutôt madame qui s'en occupe.
Exactement. Et donc cette pression s'exerce particulièrement dans le milieu rural et peut empêcher les femmes de poursuivre des carrières professionnelles et de s'épanouir, car elles vont se retrouver dans un schéma complètement traditionnel.
Oui, bien sûr. Alors, du coup, le gouvernement, il fait quelque chose aujourd'hui, le gouvernement chinois, pour les femmes ?
Oui, il y a eu des progrès quand même. Petit à petit, le gouvernement a pris des mesures pour améliorer la situation des femmes. En fait, une forme de discrimination un petit peu positive. Alors, en 2011, la Chine a adopté sa première loi sur la violence domestique, qui est maintenant criminalisée et a mis en place des mesures de protection pour les victimes, les femmes comme les enfants.
D'accord.
De plus, le gouvernement chinois a mis en place des programmes pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomie économique des femmes. Mmh. Et par exemple, le gouvernement a lancé un programme de subvention pour les femmes entrepreneuses en 2016. Ça existe toujours.
D'accord.
Mais bon, ceci dit, il y a encore beaucoup de travail et beaucoup à faire pour atteindre une véritable égalité entre les sexes en Chine, car les lois sont toujours plus en avance que les mœurs.
Oui, tant que les choses changent quand même.
C'est ça, les lois sont toujours plus en avance. Et le problème du harcèlement sexuel au travail est loin d'être réglé.
Ouais.
Alors bon, pour poursuivre nos réflexions, Didier, tu vas nous faire écouter une jolie chanson du film Élémentaire.
Oui.
Alors c'est un film sur l'amour, les éléments, hein, le feu, l'air,
voilà,
l'eau,
élémentaire,
qui parle de différence, de racisme et d'immigration, et c'est inspiré de l'histoire du réalisateur qui est d'origine coréenne. Il s'appelle Peter Son, et de son histoire personnelle, parce qu'il a épousé quelqu'un qui n'était pas d'origine coréenne, et ça lui a posé beaucoup de problèmes, alors il en a fait un film.
Alors, on va écouter la musique du film.
Et c'est Roy Wang. Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est dans l'émission Asialogie. Donc c'était la chanson, une des chansons du film Still the Show, du film Élémentaire. Bon Didier, c'est d'actualité, tu vas nous faire vibrer avec les tambours Taiko et avec le collectif Kodo qui est en tournée dans toute la France et en Europe actuellement.
C'est
alors,
ça.
Ils viennent pas au Mans et ils viennent pas dans le coin. Au plus près, c'était à Rennes et c'est passé.
Ah, c'est bien dommage, oui.
Oui, alors...
Alors,
les taiko.
Oui, quand on pense au Japon, bon, un instrument à percussion en particulier nous vient à l'esprit. C'est le taiko, le grand tambour sur lequel les musiciens frappent de dos avec des bâtons et avec beaucoup d'énergie. Je pense que cette image-là, elle parle à tout le monde. L'instrument peut être posé sur le sol ou placé à l'horizontale sur un support. Le musicien se tenant debout. Face à lui, torse nu, en souvent, hein, mesdames, en plus, en général, ils sont
beaux,
plutôt,
hein.
Plutôt souvent bien foutus, hein, parce que c'est assez costaud quand même, il faut être musclé pour jouer du taiko. Et le son est grave, résonne incroyablement, et le rythme, évolue selon l'histoire racontée ou l'événement qui illustre le taiko et sa musique. Alors on l'entend souvent, c'est vrai que c'est beaucoup utilisé dans les BO de films historiques ou dans les séries japonaises pour signifier le début d'une guerre. C'est en fait ça a été le cas dans la réalité au Japon ancien où les taiko servaient à annoncer et à montrer son enthousiasme au combat. C'est vrai que ça fait guerrier quand même hein, ce rythme-là. On entend aussi au début des pièces de théâtre no ou kabuki où quand il rythme différentes danses. On va l'écouter donc dans Asialogie avec un petit extrait justement de ce groupe qui ne passera pas malheureusement au Parlement, mais Asialogie est là pour vous le faire découvrir tout simplement quoi. C'est parti. Alors c'est un court extrait. Voilà, je vous ai fait profiter d'un petit medley de Kodo.
Trop bien.
Ouais, c'est des rythmes entraînants, c'est des rythmes, moi, que j'aime beaucoup. Pour vous donner une petite idée, même si malheureusement, on ne pourra pas assister en live quelque part. Mais qui sait, d'ici quelques années, ils seront
Je crois qu'à la fin de la semaine, ils sont à Lyon. C'est un peu loin du Mans.
Voilà, bon.
Bon, 3 heures de train.
C'est ça. Bon, ça, pour les amoureux, vraiment. Ça,
oui,
ça
pour les amoureux
faire,
du tambour taiko et de Kodo.
C'est ça.
Bon, Didier, c'est quoi les origines du taiko ?
Eh bien, en fait, c'est un instrument qui est traditionnel au Japon. Son nom, à l'origine, c'est Wa Daiko. Ça va, Corinne ?
Oui,
je suis pas toujours au top pour ça. Alors, devenu taiko, notamment en dehors du Japon, ce tambour a beaucoup évolué à travers les âges. Évolution aussi bien musicale que sociale. D'abord utilisé dans l'armée, il est maintenant partie intégrante de la vie quotidienne et a perdu son côté très solennel. On ne connaît pas sa date de création précise, mais il semble qu'il remonte avant le 5e siècle. Sa pratique faisait partie de la vie des festivals, des fêtes, des événements particuliers. Son origine mythique serait liée à Amaterasu.
La fameuse Amaterasu.
Je crois que là, les auditeurs savent de quoi on parle. Ou alors, sinon, il y a un podcast pour ça. Hein.
C'est vrai.
Alors que le conte originel raconte que pour la faire sortir de sa grotte, les autres dieux ont fait la fête et installé un miroir. Une autre version raconte que c'est le son du tambour. Le fameux tambour, le taiko, qu'il a fait sortir. Et c'est comme cela que le premier taiko a été inventé. Ce moment mythique est copié lors des veillées funéraires pour célébrer la vie, surtout durant les matsuris, des fêtes traditionnelles shintoïstes. Alors aujourd'hui, ils sont toujours utilisés lors de festivals, dans des cadres traditionnels, mais aussi dans le cadre de concerts, dans des salles de spectacle, comme on l'a expliqué avec, par exemple, la troupe de Kodo, mais à Paris, salle Playel, enfin, il y a eu déjà pas mal de représentations. Il existe maintenant un très grand nombre de groupes musicaux dont le taiko est l'instrument principal, au Japon comme dans le monde. Pour un occidental, un concert peut sembler un peu étrange, mais pour un japonais qui a grandi dans des festivals au son du taiko, ça éveille que des souvenirs, en fait. Hein.
Alors, à quoi ça ressemble, Didier, un concert de taiko ?
Alors, c'est très intense, en fait. Hein. C'est très important, l'intensité. Le joueur de taiko n'a pas pour seul rôle de taper au rythme prévu du tambour. Il doit rendre son jeu plus vivant possible avec une chorégraphie décrit. C'est un spectacle, quoi. Hein. Pour être joueur de taiko, c'est difficile. Hein. On peut comparer ça à l'entraînement de sumotori. Hein. C'est considéré comme un art martial. Alors, en France, il y a plusieurs écoles qui enseignent le taiko. Il y a de plus en plus d'adeptes et chaque école a son style, l'apprentissage du taiko, et c'est plutôt collectif et exigeant. Alors j'invite aussi les auditeurs à taper taiko sur leurs ordinateurs, et comme ça aussi on pourra voir à quoi ça ressemble. Il y a même des sites très bien faits où on voit comment ils sont fabriqués et c'est assez impressionnant.
Oui.
Pas les très très grands, mais les tailles moyennes. C'est un tronc qui est creusé, c'est carrément d'un bloc. Et je trouve ça assez beau et assez impressionnant.
Oui, c'est beau. Y a des très belles photos hein, sur les concerts de Kodo, enfin, sur les concerts de taiko, pas Kodo spécialement. Kodo, c'est un groupe.
C'est un groupe. C'est lui qu'on a retenu, mais il n'y a
pas
que lui.
Il n'y a pas que lui. Et oui, c'est impressionnant. Bon, Didier, on a un petit peu de temps pour une petite brève que tu viens de recevoir, là, sur notre Telex.
C'est ça. Alors...
C'est un ancien président de Mongolie, qui nous a envoyé quelque chose.
J'avoue aux auditeurs et aux auditrices que ça m'a amusé. En fait, c'est en réagissant à l'interview du journaliste Tucker Carlson, dans laquelle le président russe, notre ami M. Poutine, a justifié par l'histoire de l'invasion de l'Ukraine, l'ex-président de Mongolie, lui, a rappelé, carte à l'appui, la petite taille de la Russie sous domination de l'Empire mongol fondé au début du XIIIe siècle par le souverain Genghis Khan. Alors ça, là aussi, on en a parlé très peu de temps. C'est pour ça que quand j'ai entendu ça, ça a fait tilt. Et j'ai beaucoup aimé l'ironie qu'a prise ce président de lui répondre en prenant Vladimir Poutine à son propre piège. Voilà donc comment l'ex-président de Mongolie il a choisi de réagir. Poutine, dans cet entretien fleuve, avait de nouveau tenté de justifier l'invasion de l'Ukraine par l'argument historique, revenant dans un monologue un peu interminable sur l'histoire de la Russie depuis le 9e siècle pour démontrer que la nation ukrainienne n'avait jamais existé. Et alors, je me lance. Sakia, Elbeck d'Orge, qui était président de 2009 à 2017, a raillé cet argument en publiant lundi sur le réseau social X une carte de l'Empire mongol au cours des siècles. Et on voit que la Russie, elle est ridiculement petite en comparaison de son voisin, son puissant voisin, notamment sur une des quatre cartes datée du 15e siècle, où une toute petite tache orange dans l'immense empire rouge mongol est signalée de la légende Russie en 1471. Et là, pour finir son petit message, ne t'inquiète pas, ironise l'ancien chef d'État à l'adresse du chef du Kremlin. Nous sommes une nation pacifique et libre et ils vont pas essayer de recomposer leur ancien empire, eux.
Ah,
donc
bon.
Ça m'a fait sourire. J'avais envie de vous partager ça.
C'est vrai, il a de l'humour. Bon, il en faut en
c'est
ce moment.
C'est ça, un peu.
Mon Didier, merci. Asialogie, c'est fini les amis. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook. On attend vos avis et vos suggestions. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
À la semaine prochaine.
Salut.
Au revoir. Thank you.